Habemus Papam.
Milieu du 19e siècle. Après la tourmente révolutionnaire, l'Église a retrouvé une grande partie de ses forces. À la mort de Grégoire XVI, c'est un candidat libéral qui est élu en la personne de Mastai Ferretti, qui prend le nom de Pie IX. Le père Bruno Valentin nous en parle.
Pie IX, de tempérament personnel, est un homme assez modéré. Ça n'est pas un politique, ça n'est même pas un diplomate, c'est un pasteur fondamentalement. Un pasteur qui a commencé notamment sa vie sacerdotale au service des plus pauvres, dans certaines institutions spécialisées de la ville de Rome. C'est un homme qui, vraiment, est d'abord et avant tout, quand il est élu pape, soucieux d'encourager le renouveau spirituel et missionnaire de l'Église, d'encourager en particulier la formation des prêtres. Il va faire beaucoup d'efforts pour soustraire l'activité missionnaire renaissante aux influences des puissances coloniales.
De fait, Pie IX arrive sur le trône de Saint-Pierre, alors que l'Église est en plein renouveau.
Après la tourmente napoléonienne, l'Église a connu un regain de vitalité spectaculaire. Sous le seul pontificat de Pie IX, certes assez long, 190 congrégations religieuses ont vu le jour. L'activité missionnaire reprend partout dans le monde. De grandes figures spirituelles viennent raviver la flamme de la foi. C'est la période, par exemple, où vit Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars en France, qui incarne bien le renouveau de la foi dans une Europe balayée par la tourmente révolutionnaire et napoléonienne.
Le pape lui-même bénéficie d'un prestige et d'une influence accrue.
Pendant la Révolution et même avant, il y avait eu des revendications croissantes d'indépendance à la fois des souverains, mais surtout aussi des épiscopats nationaux, de plus en plus conscients de leur légitime autonomie finalement. Au sortir de la période napoléonienne, l'institution pontificale se trouve au contraire très renforcée grâce à des figures comme Pie VI ou Pie VII qui ont été garants de la continuité de l'Église dans la tourmente et qui ont surtout démontré que par sa position, le pape a finalement plus de possibilités d'autonomie que les épiscopats nationaux face à des pouvoirs locaux qui sont parfois très brutaux. Donc, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'institution pontificale jouit d'un grand prestige et d'une influence très renouvelée.
Toutefois, le monde est en pleine évolution.
L'Église a beaucoup de mal à se situer dans le nouveau climat philosophique de son temps qui est le libéralisme. L'État libéral, c'est un État qui n'a pas besoin de Dieu et qui d'ailleurs n'a même pas tellement besoin d'Église parce que la foi est désormais confinée dans la sphère privée pour ce qui reste de la foi. Parce qu'on admet assez bien à l'époque que la foi, c'est, on pourrait dire, la part d'ombre non encore éclairée par la raison.
Pie IX est rapidement amené à se prononcer sur ces évolutions.
Il ne faut pas confondre modernisme et modernité. Pie IX n'est pas un pape contre la modernité. Pie IX est un pape contre le modernisme, c'est-à-dire une espèce d'absolutisation des acquis du siècle des Lumières qui vise ni plus ni moins qu'à la disparition de la foi. On est dans une époque de scientisme naissant puis triomphant, où il est entendu que la raison a vocation à dissoudre la foi. Pie IX, au Concile Vatican I, notamment avec le document Dei Filius, pose un principe fondamental de confiance dans la raison humaine, mais évidemment non destiné à faire disparaître l'acte de croire.
Rapidement, l'image du pape libéral cède la place à celle d'un pape conservateur, condamnateur. Peut-être à tort.
Ne nous n'imaginons pas du tout Pie IX comme quelqu'un de raide, de dur. En 1833, il a confié à un de ses amis « Je hais et j'abomine les pensées et les actions des libéraux, mais le fanatisme des bigots ne m'est absolument pas sympathique. Le juste milieu chrétien serait la voie que je voudrais suivre avec l'aide du Seigneur. Mais y réussirai-je ? » Cette confidence est intéressante parce qu'elle dit à la fois le tempérament naturel de cet homme. Et puis, elle dit que, de fait, il est plongé dans un contexte qui va, de gré ou de force, si j'ose dire, le ramener sur un terrain politique qui n'est pas forcément celui où il est le plus compétent.
De fait, sur le terrain politique, la période n'est pas propice.
C'est sous le pontificat de Pie IX que, après 1000 ans d'existence, les États pontificaux vont disparaître totalement. En 1848, 2 ans après son élection au siège de Pierre, éclate en Italie la Révolution, qui mènera en quelques décennies à l'unité italienne. Alors dans un premier temps, Pie IX va réussir à contrôler la Révolution en faisant appel à des troupes étrangères, mais ça ne durera qu'un temps, et effectivement, Pie IX verra se faire l'unité italienne contre ses États. Pie IX va s'enfermer au Vatican, se considérant comme prisonnier. Donc c'est vrai qu'au plan politique, Pie IX est un homme dépassé par les mouvements de son temps, qui a tenté d'y faire face avec une certaine raideur et qui a échoué.
Pourtant, sur le plan théologique, Pie IX aura laissé un héritage important, avec tout d'abord le dogme de l'Immaculée Conception.
C'est un dogme qui pose que la Vierge Marie a été préservée dès sa conception du péché originel, et que c'est donc une nature humaine intacte de toute trace de péché qui a accueilli la deuxième personne de la Trinité pour qu'elle s'incarne. C'est à la fois la proclamation que Jésus est donc né d'une mère sans péché, et à la fois un signe d'espérance pour les chrétiens. Parce que Marie, préservée du péché dès sa conception, c'est ce que nous espérons être au terme de notre vie terrestre. Marie est un signe d'une humanité libérée du péché, à la fois gage de l'incarnation de Jésus sans péché et promesse pour nous les chrétiens d'une vie libérée du péché. Donc c'est un dogme qui est très important, non seulement pour la christologie, mais même pour la vie spirituelle des chrétiens.
Pie IX va aussi poser le dogme de l'infaillibilité pontificale.
Le principe de l'infaillibilité, c'est un principe souvent contesté. En fait, il ne fait que proclamer formellement que le mandat confié à Pierre et ses successeurs par le Christ de conduire l'Église implique nécessairement une assistance spécifique de Jésus à Pierre et à ses successeurs. Le dogme de l'infaillibilité formalise cette proximité au quotidien de Jésus avec son peuple tout entier à travers une assistance particulière donnée à celui qui a la charge de conduire ce peuple à travers le temps. C'est donc finalement la conviction que nous avons que l'Esprit-Saint assiste le Saint-Père pour conduire le peuple de Dieu vers la vérité tout entière. L'infaillibilité s'exerce dans des conditions très exceptionnelles, sur des points tout à fait fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne.
Pie IX décède en 1878, après un pontificat de 32 ans, le plus long de l'histoire après celui de Saint-Pierre. C'était le père Bruno Valentin, auteur avec Mgr Di Falco d'un ouvrage intitulé « Les papes qui ont fait l'Église », qui nous en parlait.